Projecteur.
On peut faire des films avec n'importe quoi.
Est-ce que vous savez seulement comment on fait un film?
Ah non.
I'm not Steven Spielberg.
Qu'est-ce que c'est que ce métier où tout le monde ment?
Coupez.
C'est comme ça qu'on fait des films.
Mais non, on s'en fout de ton film, le même pas connu.
Elle était bien celle-là.
Aujourd'hui, ça tourne pas. L'émission qui interroge les métiers du cinéma une fois par mois.
Tout le monde se remet en position de départ.
Bonjour à tous, aujourd'hui ça tourne pas, et du coup, avec Pascal et moi-même, Grégoire, on a rendez-vous dans le studio de Raphaël Soyer, ici présent. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Salut Raphaël.
Et Pascal. Raphaël qui est monteur son depuis 24 ans. Voilà. Raphaël, il a travaillé avec pas mal de réalisateurs que vous connaissez probablement, tels que Agnès Varda, Alice Hunocourt, Jean-Michel Ribes, Valérie Donzelli, Rémy Besançon, Michel Houellebecq, Raymond Depardon, Agnès Jaoui, Yann Kounen, Thomas Lilti et Thomas Caillet. Et dernièrement, vous avez pu entendre son travail sur Un métier sérieux ou Le règne animal. Donc Raphaël Soyer est un concepteur sonore, un bidouilleur, un inventeur. Et aujourd'hui, avec Pascal, on va le cuisiner pour vous. Et d'abord, on a commencé à poser la question aux gens dans la rue. C'est quoi un monteur son ?
J'imagine que lui, il s'occupe du rendu son après, une fois que le son a été produit, pour le rendre plus homogène partout sur tout le film.
Ah ben, c'est lui qui règle le son, justement, quand il faut que ça soit fort, et puis il le baisse, enfin, c'est ça, à peu près.
En tout cas, il récupère les sons du film, tous les bruits, les ambiances qui ont été exploitées.
Mais c'est la personne qui met les dialogues bien et tout, qui fait en sorte que le son il soit bien au bon endroit dans la scène, machin, tout.
Il gère le son, de tous les sons par rapport à l'image, quoi.
Il faut avoir une bonne oreille.
Donc bonjour Raphaël. Ben merci de nous accueillir, de nous recevoir dans ton studio. Pour ce premier podcast, c'est notre première émission aujourd'hui avec Pascal. On est un petit peu fébrile dans nos petits souliers parce que c'est la première fois, voilà. Toi, je crois que c'est la première fois que tu parles dans un micro aussi.
Tout à fait.
Et ben du coup, on vient d'entendre un petit peu des gens qui, voilà, on leur a posé la question sur c'est quoi le métier de monteur son, ce petit micro-trottoir qu'on vient d'entendre. Et du coup, en fait, on voudrait te demander, est-ce que tu pourrais nous décrire ton métier ? C'est quoi être monteur son ?
Être monteur son, c'est comprendre les intentions d'un réalisateur pour les transcrire et créer un univers sonore qui soit adapté à son film. Donc, concrètement, c'est choisir des sons, les monter à l'image et après proposer un univers au réalisateur. Et on travaille en collaboration côte à côte pour mettre ça en place, quoi.
Si je décortique la chaîne sonore d'un film, la première étape, c'est la prise de son sur le tournage qui est gérée par le chef opérateur et son équipe. Cette matière sonore va être utilisée par le montage image pour choisir les prises en fonction du jeu des comédiens. L'étape suivante va être le montage des directs par le chef monteur parole qui va s'occuper des sons enregistrés lors du tournage. Puis moi, je récupère ce travail et c'est là que j'interviens en ajoutant tous les autres sons liés au film. Enfin, la dernière étape va être le mixage. Je transmets toute cette composition au mixeur, qui est chargé d'équilibrer l'ensemble des éléments sonores du film. C'est-à-dire que ces éléments comprennent les sons du tournage, les sons que j'ai rajoutés, les bruitages et les musiques. Par analogie musicale, si le mixeur peut être considéré comme un chef d'orchestre, le monteur son peut être considéré comme le compositeur arrangeur des sons du film.
Et le matériau sonore, c'est quoi en fait ?
Alors, il y a un premier matériau sonore qui est ce qui vient du direct. C'est la prise de son qui a été faite pendant le tournage. Et donc, ça comprend d'abord essentiellement les voix. C'est-à-dire que les ingénieurs du son essayent d'avoir les plus belles voix possibles et d'éliminer tout ce qui pourrait être parasite et qui nuirait à l'intelligibilité. Donc le monteur direct va travailler cette parole d'abord en nettoyant toutes les problématiques qui sont liées au tournage. Donc ça peut être des bruits de chaises, par exemple, pendant que je parle. Donc ça, c'est une des choses. Par exemple, ce qui vient de se passer là, c'est intéressant parce que c'est exactement ce qui peut arriver lors d'un tournage. C'est-à-dire que pendant qu'un comédien parle, eh ben, y a quelqu'un qui fait un bruit derrière et donc ça va nuire à l'intelligibilité de ma voix. Et puis après, une fois qu'on a travaillé ce direct et qu'on a enlevé les bruits de bouche que vous entendez, etc., et que Eh ben, moi, j'arrive à ce moment-là, c'est-à-dire que je vais créer toute l'ambiance de la séquence. Donc, où est-ce qu'on est ? Est-ce que c'est en plein milieu d'un désert ou est-ce que c'est dans un intérieur intimiste ? Et tous les sons que vous entendez dans un film sont généralement rajoutés. C'est-à-dire qu'il y a très peu de choses qui viennent du direct. Vous êtes dans un principe d'artifice total. Voilà, donc il y a toute une couche d'ambiance qui vont donner le décorum. Donc ça va donner des indications de temps, de météo, de solitude ou pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents dans l'endroit ? Et puis ça va donner des indications de perception, voilà, de chaleur. Donc ça, c'est le travail des ambiances. Un peu comme si je faisais un tableau, ben je pose mon aplat et là-dessus, je vais poser mes effets. Donc les effets sont tous les sons ponctuels qui vont être liés à la séquence. Donc ça peut être tous les éléments précis que vous allez voir à l'image, une mouche qui passe, un bruit de chaise. Et puis après, bah, je vais gérer l'intégration des bruitages du film, qui vont être faits par un bruiteur.
Et du coup, c'est quoi le travail d'un bruiteur ?
Le travail essentiel du bruiteur, c'est tout ce qui est lié au corps des comédiens. Et donc ce sera les pas, les présences, donc c'est tout ce qui est lié au bruit que nous allons faire en nous déplaçant, par exemple.
Et c'est ça qui est hyper intéressant, dans le fait que, un peu comme dans les films d'animation où tout est recréé, mais dans les films aussi, rien n'existe quasiment, tout est refait après quoi.
Oui, tout est refait après, et il y a aussi une raison très simple, c'est qu'on fait des versions internationales. C'est-à-dire qu'il va bien falloir à un moment que le film puisse s'exporter et donc qu'on remplace les voix dans une autre langue, et que tout le son existe quand même.
Donc les versions internationales, c'est tout le son sans les voix en fait.
Exactement. Tout le son sans le direct, parce que le direct n'est pas seulement lié aux voix. C'est-à-dire que quand vous enlevez le son du direct, là je suis en train de parler, mais je fais des bruits avec mon corps, donc quand je marche, on entend les pas, si je bouge de ma chaise, on entend la chaise, donc tous les sons qui sont liés au corps risquent de disparaître aussi quand on enlève le direct, et d'où l'intérêt d'avoir un bruiteur qui va retravailler et qui va refaire exister tous les sons qui sont liés au corps.
Alors, on fait une première petite pause avec la chronique Les secrets de Cécile. Cette semaine, on va vous parler d'un crime mythique du cinéma.
Bonjour à tous. Je vais commencer par une petite devinette. Quel est selon vous le point commun entre Star Wars, Indiana Jones, Batman, Titanic, L'Arme fatale, Toy Story, La Belle et la Bête, Kill Bill et le mystère du lapin-garou ? Et ne me dites pas que ce sont tous des films, ce serait trop simple. Vous ne voyez pas ? Et c'est normal, parce qu'il s'agit plutôt de quelque chose à entendre. C'est un cri, écoutons-le. C'est le Willem Scream, ou cri de Willem, ou encore plus simplement, cri Willem. Vous l'avez forcément déjà entendu, car c'est l'un des sons les plus utilisés au cinéma depuis les années 70. On doit sa notoriété à un jeune ingé son, Ben Burtt, embauché sur Star Wars et qui tombe par hasard sur une vieille cassette dans les archives de la Warner. Elle s'intitule « Bruit d'un homme mangé par un crocodile », dont voici l'enregistrement original.
A man getting bit by an alligator and he screams.
Okay, quiet. Hey, quiet.
Shut up. Okay, ready? Ah! 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 Ce cri a été utilisé pour la première fois en 1951 dans le film « Les aventures du capitaine Wyatt » avec Gary Cooper. Un homme avance lentement dans une rivière marécageuse et soudainement il se fait happer par un crocodile. Il pousse alors un cri, désormais reconnaissable entre tous. En réalité, Willem n'est pas le nom de la personne qui a poussé ce cri, mais celui du personnage à qui on l'a attribué. Fasciné, Ben Burtt l'insère au montage dans une scène de Star Wars lorsque des soldats de l'Empire se retrouvent projetés dans le vide. Et voilà, le cri est entendu par des millions de spectateurs et c'est le début de sa carrière. C'est aujourd'hui un running gag entre les professionnels du montage que les publics avertis peuvent facilement reconnaître, faisant du cri de Willem un véritable mème planétaire. Chers auditeurs, la prochaine fois que vous irez au cinéma, ouvrez grand vos oreilles pour reconnaître le fameux cri Willem.
«
Ensuite, avec Raphaël, on a pas mal discuté du film Le règne animal de Thomas Caillet.
Alors, sur Le règne animal, ce qui a été très agréable, c'est que le film est très ambitieux et que la production nous a poussé à être exigeant et ambitieux aussi. Donc, elle nous a sollicité très tôt. Et on a fait des lectures de scénario avec l'ingénieur du son et on a décidé que pendant le tournage, moi et l'équipe de post-production, on allait venir pour faire des deuxièmes équipes de prise de son pendant certaines séquences. Donc tout ce qui était figuration où il y avait 300 personnes, on a dit bon bah on vient à deux équipes pour pouvoir avoir différents points de vue sonores et profiter de cette figuration quand on voulait refaire des choses. Donc dès le scénario et dès les premières esquisses, on a rencontré Thomas quasiment un an avant le tournage, quoi. Donc ce qui fait qu'on a pu nous commencer à réfléchir à comment faire les sons, quelles étaient les problématiques du film, qu'est-ce que Thomas voulait. Donc lui avait déjà fait une sorte de repérage énorme de créatures, de aussi bien visuelles que sonores. Donc il nous a donné plein de choses à écouter qui lui l'intéressait, et à partir de là on a commencé nous à chercher aussi de notre côté et se poser des questions de comment fabriquer ces sons.
Et c'est quoi par exemple ce dont il vous a parlé, ce qu'il vous a présenté un peu comme...
Il nous a montré pas mal de vidéos avec un morse qui chantait, enfin des trucs complètement ahurissants sur YouTube, et ces choses qui l'intéressaient c'était quand même toujours très proche de la voix humaine. Et c'était vraiment ça qui était intéressant, c'est que c'était pas des sons d'animaux, c'était des animaux qui étaient très troublants dans la manière dont ils s'exprimaient, quoi. Et le morse sifflait. Et il fait des sons assez dingues et il répond à quelqu'un. Et il nous a orientés, dans un sens, en nous faisant écouter ces choses-là, vers ce qui, lui, le titillait, et qui était un glissement de l'humain vers l'animal et inversement, quoi.
Le réalisateur vient avec quand même, il est chargé. Toi, tu viens avec ta palette de peinture.
Lui il est chargé depuis 4 ans. Enfin, donc lui, il arrive avec un background énorme et c'est à nous de comprendre ses intentions et de travailler avec lui pour lui fournir du matériel par rapport à ça, parce que c'est vraiment une écriture. Et ce réalisateur fait partie des réalisateurs qui ont envie d'écrire avec le son. Et après, on a eu du temps pour expérimenter. Est-ce qu'on fait des essais avec un machine learning qu'on envoie à Los Angeles?
C'est quoi un machine learning?
C'est un principe d'apprentissage par ordinateur qui est assez récent. C'est-à-dire qu'on donne une voix de comédien qui doit lire un texte et on donne ça à l'ordinateur. Et après, on peut demander à l'ordinateur de reconstruire une autre phrase. L'ordinateur apprend comment le comédien s'exprime et peut complètement refabriquer d'une manière naturelle la voix d'une personne. Et nous, on a un peu détourné les choses en faisant des essais avec des animaux. Donc de dire, voilà, on va te donner la voix de tel comédien. Là, donc c'était Tom Mercier, qui est l'homme oiseau. Et donc on lui a fait apprendre toutes les séquences dans lesquelles on avait besoin de faire des essais. Et après, on a fait un casting de voix d'animaux. Et on a envoyé une voix de corbeau, une voix de corneille, une voix de rapace. On a aussi soufflé dans des flûtes. Et on lui a dit, maintenant, tu vas essayer de nous faire parler Tom Mercier avec cette voix de corneille. Et donc, il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Mais quelquefois, ça fonctionnait. Et quand ça fonctionnait, c'était totalement bluffant parce que il y a du timbre du comédien mélangé à du timbre d'oiseau. Et les deux, quand ils sont suffisamment proches, fusionnent. Alors, par exemple, je peux vous faire écouter juste le direct. C'est la séquence où Fix est avec Émile et qui lui enlève son pansement et qui parle avec le nez un peu cassé.
Fix le oiseau.
Voilà. Et donc, le direct déjà travaillé par Laurane, c'était ça.
Au début, ils m'ont fait de la chirurgie correctrice. C'est le vrai massacre, ta vie. Tu entends ma voix?
Voilà. Donc ça, c'est la voix de Tom. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà là, lui a joué l'homme-oiseau, a vraiment vocalisé. Donc, grâce à une séance qu'on a fait avec les chanteurs d'oiseaux pour travailler sur la production des sons, Et après, nous, tout notre travail a été de renforcer tout ça. Si je vous fais écouter que les éléments qui sont liés au machine learning, bah, y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, par exemple, le corbeau. Tu vois, ça, c'est un mélange complètement du corbeau avec la voix de Tom. On peut le faire siffler plus parce qu'il y avait un autre animal, là.
C'est con.
Tu vois, ce truc qui siffle, pour nous, c'était très intéressant parce que c'était vraiment l'élément nasal. Ouais. Par exemple, le corbeau fonctionnait avec ça.
D'accord.
Et on s'est dit, waouh, c'est exactement ce qu'il nous faut par rapport à Fix, mais que sur des tout petits éléments. Mmh. Après, ce sont des choix de mise en scène. Ouais, c'est-à-dire jusqu'où on déforme pour que... on perde pas non plus l'essentiel, c'est-à-dire le jeu.
Ouais. Tout le film est fabriqué et travaillé comme ça.
Non, tu pas travailles... du tout.
Non, il y a des espèces de zooms, il y a des points comme ça.
Sur chaque créature, c'est une approche différente. C'est-à-dire que sur Fix, c'était vraiment un travail avec le machine learning, mais sur d'autres créatures comme le morse, on s'est vraiment posé des questions d'interprétation. C'est est-ce que ça doit faire peur, est-ce que ça doit être plutôt drôle, et donc on a essayé plein de trucs, et pour que ça fonctionne, on l'a fait nous-mêmes. Il y a un moment, il faut interpréter, il faut jouer pour qu'on puisse avoir une base qui soit intéressante. C'est-à-dire que moi, j'avais des sons magnifiques de morse, mais ça n'empêche que un très beau son, ça n'exprime pas forcément quelque chose. Ou en tout cas, on n'est pas capable de le décrypter. Donc, comme je ne suis pas capable de décrypter ce que me fait passer comme intention à morse, il a fallu que nous, on le transpose dans l'humain pour qu'on ait quelque chose qui puisse être soit drôle, soit menaçant. Moi, je n'avais pas de comédien sous le coude et on s'est dit, bah, allez, on y va, on essaye.
D'accord. Donc, tu fais le morse. Tu sais faire le morse.
J'ai fait le morse avec cette magnifique bouilloire.
Non, à photographier une bouilloire. Très bien.
Ça c'est une grande partie du morse avec. Donc, je mettais de l'eau de là-dedans, et puis après, je parlais. Et après, avec l'eau, ça mettait en place un truc qui était. Voilà. Par exemple, si on l'entend seul, ça fait ça. Donc, ça, c'est moi.
C'est toi, c'est voilà. La fameuse théière.
C'est la fameuse théière.
Donc, le réalisateur, là, pour le coup, sur ses.
On a fait des passes et des passes pour voir jusqu'où on allait dans la comédie, jusqu'où on allait dans. Le morse qui fait un peu plus peur, enfin voilà, et comment jouer de l'un vers l'autre, et le fait d'avoir tous ces éléments séparés nous permet.
Il te permet de pouvoir
doser. De doser la sensation.
D'accord, c'est vraiment t'es peintre en son quoi en fait, et tu fais c'est.
Ouais, en tout cas c'est du pointillisme. Ouais. Et l'idée c'est de donner des sensations, et si on y arrive, c'est de créer de l'émotion. Et ça, pour le coup, quand on en arrive là, pour moi, c'est gagné.
Oui, c'était une grande équipe, c'est une grosse équipe que tu avais
sur
ce film.
C'est assez rare pour nous et d'avoir... Enfin, quand je dis grosse équipe, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quoi. Enfin, c'est une grosse équipe française.
Oui, d'accord.
Généralement, on est un monteur son, un assistant et un monteur parole, on est 3.
Et alors, la durée de ce montage-là
normalement, mon travail à moi, sur un film classique, c'est 8 semaines de montage son.
Et là, sur le
rail. Et là, on en a fait 17.
Le règne animal a donc occupé une grande partie du temps de cerveau disponible de Raphaël l'année dernière. Mais on lui a quand même demandé de prendre un peu de temps pour nous proposer un extrait de livre qu'il aime bien.
Alors, ça m'a assez surpris. Et je suis en train de lire un livre, et que j'ai ramené d'ailleurs. Ça parle absolument pas de mon métier. Ça parle absolument peut-être un petit peu de moi. Mais en tout cas, c'est rentré en résonance, cette première page, avec ce que, voilà, des choses qui m'ont touché. Donc,
Ça s'appelle comment, ce livre ?
Ça s'appelle « Ton absence n'est que ténèbres ». Et je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais il s'appelle Jon Kallman Stefansson. Et voilà, donc du coup...
On va écouter Andrea qui va nous dire ce texte.
Le plus important, les choses qui vous marquent durablement, grands sentiments, expériences difficiles, chocs, bonheurs intenses... épreuves ou violences qui viennent secouer la société ou votre existence, peuvent laisser en vous des traces si profondes qu'elles s'impriment dans votre patrimoine génétique, lequel se transmet ensuite de génération en génération, façonnant les individus qui naîtront après vous. C'est une loi fondamentale. Vos gènes charrient vos émotions, souvenirs, expériences et traumatismes d'une vie à l'autre, et dans ce sens, certains d'entre nous sont vivants longtemps après leur disparition, y compris lorsqu'ils ont sombré dans l'oubli. Nous portons perpétuellement en nous le passé, continent invisible et mystérieux qui affleure parfois quelque part entre le sommeil et la veille. Un continent dont les montagnes et les océans influent en permanence sur les couleurs du temps et les chatoiements de lumière que nous abritons.
C'est trop bien les bruits de la nuit.
Nina, tu crois que si je crie depuis chez moi, tu peux m'entendre depuis chez toi ?
Vas-y. Vas-y, j'essaye.
Est-ce que petit, tu t'avais un magnétophone avec trois boutons ?
Alors non, pas petit, mais pas très grand quand même. Non, ça a été un premier choix que m'a demandé ma mère. Elle m'a dit, bon alors, tu veux faire catéchisme ou école de musique ? Et donc, donc j'ai réfléchi, mais pas très longtemps. Et donc, je me suis retrouvé dans un conservatoire de musique voilà, à Calais. Et... totalement par hasard, on connaissait un copain à nous qui a monté une classe d'électroacoustique au moment où moi je rentrais au conservatoire. Donc je devais avoir 7 ans, 7 ou 8 ans. Et donc j'ai fait de la percussion et de l'électroacoustique. Et donc l'électroacoustique, c'était quelque chose, c'était une classe de composition où on avait des magnétophones à bandes analogiques, donc magnétiques, et où on devait écrire des morceaux musicaux à partir de compositions de sons qu'on fabriquait. Donc ça, ça a été mes premières approches de la composition voilà, analogique, contemporaine, et ce qui m'a permis de découvrir tout un univers sonore. Et ça, j'ai trouvé ça absolument dingue. Et après, j'ai fait des études supérieures en histoire de l'art, parce que mon père avait une galerie d'art contemporain, et que donc, du coup, moi, j'avais suivi ses traces. Mais je n'étais pas spécialement attiré par le cinéma. Mais j'ai pris option filmologie. Et là, je suis tombé sur un prof qui s'appelle Charles Tesson et qui m'a fait découvrir en option filmo sur des petits écrans cathodiques, Godard, Lang. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même... C'est chouette, quoi. Et ça résonnait avec un peu ma pratique de musicien. Et un soir, je vais boire une bière avec lui et il me dit, mais... c'est marrant ton parcours parce que tu es intéressé par les films, tu as fait de la composition, pourquoi tu ne passes pas à la FEMIS ? Je lui dis, je ne sais pas ce que c'est la FEMIS. et il dit, bah, c'est une école de cinéma à Paris, tu devrais essayer le concours. Et je lui dis, bah ouais, bon, pourquoi pas. Donc ça m'a travaillé, puis je me suis mis à passer le concours. Bon, il y avait tout un dossier à préparer, et j'ai eu le concours. Donc c'est un cheminement qui s'est fait... quasi naturellement et de manière assez fortuite aussi, c'est-à-dire que
sur une bière,
quelqu'un qui t'indique, qui comprend ton parcours et qui te dit à un moment, bah tiens, peut-être que ça va rentrer en résonance avec tout ce que t'as mis en place.
Et su avant toi ce que t'allais faire.
Ouais, ouais, voilà. Et donc je me suis retrouvé comme ça
à la FEMIS,
ouais.
Et du coup, après, tu passes 4 ans là-bas, tu découvres aussi un milieu et des...
Oui, et puis je découvre une cinématographie. Moi, je fais ma culture cinématographique là-bas. Moi, je ne connaissais vraiment rien au cinéma. J'avais vu plein de films qui m'avaient impressionné, mais je n'étais pas capable de les analyser. Et puis, je ne m'étais jamais mis dans la tête que j'allais travailler dans le cinéma.
Nos jeunes auditeurs qui sont intéressés par le son, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur c'est quoi les qualités et qu'est-ce qu'il faut faire ou être pour faire ton métier, en fait ?
Il y a quand même 80% de psychologie dans notre métier, c'est-à-dire de comprendre ce que veut le réalisateur et de saisir où on peut l'emmener et jusqu'où lui est prêt à aller. Enfin, pour moi, il y a déjà à être très à l'écoute, mais à l'écoute pas seulement avec ses oreilles. Voilà, il y a un truc qui est de l'ordre de l'humain et qui s'apprend. C'est-à-dire que je pense que quand on est jeune, on a envie d'être dans un truc très technique, et en réalité, ça se passe pas du tout là. Que je peux faire les plus beaux sons qui soient, si ce n'est pas en accord avec une mise en scène, ça n'a pas de sens, quoi. Et puis après, il faut être curieux, je pense, parce qu'il y a un moment, il faut aussi se confronter à la réalité de c'est quoi le boulot, quoi. C'est un parcours différent d'une composition sans image.
Tu t'inclus dans un processus créatif où il y a une personne qui est là pour...
Où il y a une équipe.
Et une équipe, ouais,
voilà, surtout, ouais, une aussi équipe. Simplement que ça, ouais.
Donc c'est aussi l'idée de travailler avec cette équipe et à chaque étape et avec...
Et il faut être à l'aise avec le fait de travailler en équipe parce que à chaque fois, ça peut être des équipes différentes et puis quelquefois, il y a des mauvaises expériences. Après, l'intérêt de ce métier, c'est que quand il y a des mauvaises expériences, ça ne dure pas longtemps. Et quand ça se passe bien, bah, on les retrouve parce qu'on a plaisir à les retrouver. Donc là, il y a vraiment un truc qui est assez agréable là-dessus.
Le cinéma, c'est donc des rencontres et des artifices, des vraies rencontres et des sons fabriqués pour créer une illusion de réalité.
Oui.
Va, Émile. C'est quoi ça?
Mais tout le cinéma, il faut. On passe notre temps à essayer de rendre crédible une image en 2D et où tout le monde va au cinéma en se disant que c'est vrai, quoi. C'est-à-dire que quand même, il y a un moment, on se dit, mais vous êtes en train de me parler du son de l'alien, mais vous savez très bien que les aliens, là, comme ça, ça n'existe pas vraiment. Mais on accepte ça. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on en joue. Et par contre, quand c'est mal fait, on s'en rend compte aussi.
On perçoit fort.
C'est ça qui est vraiment drôle, c'est qu'on nous fait croire, on essaye de rendre crédible une supercherie, que tout le monde sait que c'est une supercherie. Mais il y a des moments où on sent que c'est pas juste, la supercherie.
Ouais. Mais c'est vraiment tout l'enjeu de chercher à faire en sorte qu'on ne se rende pas compte de ton travail, en fait, d'une certaine manière.
Oui, après, c'est vrai que le son est particulier dans le processus du film, c'est que c'est éminemment subjectif. C'est-à-dire que d'abord, ça nous permet, c'est en 3D, c'est vraiment quelque chose qui jaillit de l'écran. Et puis, je pense que ça touche à plusieurs endroits qui rentrent en résonance avec notre propre expérience. C'est-à-dire que, par exemple, l'un des premiers éléments en termes de sensation qu'on a, c'est l'audition. Et donc, c'est aussi ça qui est intéressant à travailler, nous, en son, c'est que tout ce qui se passe en dehors du champ de vision et tout ce qui surgit, nous fait travailler, nous, en notre fort intérieur et nous remue sur des peurs, des... on travaille physiquement quelque chose. Donc, quand le film il nous permet ça, c'est du bonheur, parce qu'on arrive à un endroit qui remue les gens et d'une manière qui leur est personnelle, quoi.
C'est très beau, tout ça.
Ouais, c'est très, très beau. Non, sans blague. Alors, donc, toute cette évolution fait évoluer ton métier. En fait, il y a des grosses évolutions dans ton métier.
Clairement. Moi, j'ai fait partie d'une génération qui a connu la fin de l'analogique, qui a vu se développer le numérique et qui est passé en son multicanal, qui est passé en immersif. Sur 30 ans, le métier a considérablement changé. Mais même le statut du métier. C'est-à-dire que avant, le montage son, c'était fait par l'assistant du monteur image. Le métier de monteur son, il a commencé à émerger avec Star Wars. Et donc, c'est 77, 78, 79, Apocalypse Now. Et donc là, des monteurs son ont commencé vraiment à mettre en place une écriture qui était très impressionnante. Et le poste de monteur son s'est inséré petit à petit entre le montage image et le mixage, grâce aussi à l'évolution des technologies et grâce au fait que les réalisateurs se disaient ça devient vraiment une matière de mise en scène. Ça existait déjà avec Tati, mais c'était des choses très spécifiques à quelques réalisateurs. Et puis est arrivé dans les années 2000 le son immersif, c'est-à-dire qu'on a multiplié le nombre d'enceintes et multiplié le nombre de canaux, et donc ce qui nous permet maintenant, pour n'importe quel son, de le passer de l'avant vers l'arrière en passant par le plafond, et donc de distribuer, suivant le nombre d'enceintes, un son à n'importe quel endroit. Donc ça donne une sensation d'être en immersion totale, mais c'est aussi une écriture à trouver. C'est-à-dire que ils avaient fait des premiers essais de mix sur Apocalypse Now et ils mettaient tous les sons à l'arrière et tout le monde se retournait.
Et donc, si quelqu'un et donc, à un moment, on dit,
ah, c'est dommage, parce que du coup, plus personne ne regarde l'écran. Parce que c'était tellement fort et tellement soudain à l'arrière que tout le monde se retournait pour vérifier que s'il n'y avait pas un problème, quoi. On peut pas se permettre de tout faire non plus, parce qu'il y a un principe physique qui est lié à notre perception sonore.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Raphaël ?
Bah, de continuer à faire des belles rencontres. Voilà. Ça me suffira largement.
Ben ça nous va des beaux films, ça fait des fois des beaux films aussi. Ben on pas toujours, faire, mais des
ça,
fois oui.
Ben oui. Mais qu'importe, je dirais ça. C'est-à-dire que c'est pas le beau film qui m'intéresse le plus, dans un sens. Après, quelquefois, quand on a les deux, c'est ouais. Formidable.
Merci beaucoup de nous avoir reçus ici aussi, dans ton beau lieu, bel atelier de travail. Voilà.
Ouais, merci, je vous en prie.
Voilà, c'est fini pour ce premier épisode de Aujourd'hui ça tourne pas, l'émission qui interroge les métiers du cinéma une fois par mois. Elle a été enregistrée avec Raphaël Sollier le vendredi 20 octobre 2023 dans ses locaux de l'usine à silence à côté de Bastille. On remercie Cécile Cabane et Andréa Brusque pour leur chronique et leur lecture, Nelly Bousselier pour le montage son et le mixage de l'épisode, et Gustave Potel, notre stagiaire émérite. C'était Pascal Sardabi et moi-même, Grégoire Sivan, en direct du premier épisode de Aujourd'hui ça tourne pas. Rendez-vous le mois prochain, à bientôt.